Nous sommes arrêtés hier sur ce que j'essayais de donner, c'est-à-dire une définition de l'objection de conscience, dont je voudrais, en évitant de marcher sur le fil et de me prendre les pieds dans le tapis, parce que ça sera mieux quand même, dont je voudrais vous rappeler les termes, qui sont importants, en revenant d'ailleurs sur deux d'entre eux. Hein, je vous ai dit que l'objection de conscience prenait place au moment où, en étant sous contrainte, quelqu'un refuse d'être impliqué dans un mal à commettre, dans la coopération matérielle à un mal à commettre. Donc, coopération qui concerne un acte intrinsèquement mauvais, vous l'avez compris, et j'ai évoqué les trois domaines possibles, la vie, la vérité et la dignité humaine. Un acte reconnu mauvais par la conscience de celui qui serait amené à le commettre. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit sur la conscience. Une coopération matérielle, je vous rappelle la différence avec la coopération formelle, qui ne vous avait pas échappé, vous l'avez bien entendu tout ça en tête. Dans le langage philosophique, la coopération formelle désigne la coopération que l'on veut faire en tant que telle, parce qu'on partage l'intention et la finalité de celui avec qui on coopère. Entendez le mot forme dans ce cas-là comme dans l'expression mettre en forme, c'est-à-dire donner son achèvement, porter à son achèvement, réaliser. Non pas sous l'appellation extérieure. Donc, quand on est impliqué dans la commission d'un mal par une coopération matérielle, c'est-à-dire instrumentale, le fait que l'acte qu'on doit commettre va y participer, même si on n'en partage pas l'intention. Il faut que cette coopération soit directe, je le rappelle aussi, et c'est important la notion de coopération directe. Ça veut dire que sans l'acte qu'on va commettre, le mal ne se ferait pas. À la différence de la coopération indirecte, et la distinction est très importante. Dans la coopération directe, sans vous, les choses ne se font pas. La coopération indirecte suppose l'interposition d'autres volontés entre ce que vous allez faire et le mal qui va se commettre à la fin. Et vous n'êtes pas responsable du mal final, ou du moins pas directement, dans une coopération indirecte. Le fait que d'autres intervenants puissent agir et vont agir, et on en donnera des exemples tout à l'heure, vont, si vous voulez, introduire une césure dans la chaîne des responsabilités. Il faut enfin que cet acte soit sorti d'une contrainte à laquelle la conscience décide de ne pas céder. Et je voudrais m'arrêter un instant sur cette notion de contrainte, car nous allons la voir revenir et sous différents aspects. Il est absolument nécessaire d'en saisir le point d'application. La contrainte peut venir de deux sources. La plus courante, la plus fréquente, la plus habituelle, c'est la contrainte hiérarchique. Nous sommes tous, d'ailleurs, à des degrés divers, à un moment dans notre existence, notamment dans la vie professionnelle, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Vous avez compris que je fais un peu référence à ce que nous a dit Rémi Guérin ce matin. Dans la vie professionnelle, nous sommes en général sous une chaîne hiérarchique, quelle qu'en soit la forme, et soumis à un patron, ou à des patrons, alors à des petits et des grands chefs, mais peu importe. Il est très rare que nous n'ayons aucun supérieur hiérarchique dans aucun domaine. En fait, ce rapport hiérarchique peut avoir plusieurs expressions. Pour un militaire, c'est clair. Pour un employé, il a son contremaître, ou son chef d'atelier, ou son chef d'équipe. Le dirigeant d'une entreprise, il a une certaine forme de rapport hiérarchique avec ses actionnaires. L'artisan, il a ses clients. Alors, c'est pas exactement un rapport hiérarchique. Mais vous voyez bien qu'il y a un rapport de dépendance vis-à-vis de son client, parce que c'est lui qui va vous passer sa commande. Le médecin, alors s'il est dans le monde hospitalier, régime fonctionnaire, c'est clair, il est dans la dépendance de son chef de service, etc. Le médecin purement libéral est probablement l'exception ultime, même si il va dépendre des caisses de sécurité sociale, qui vont lui fixer, par exemple, ses parcours de soins. Il peut être sous une certaine forme de dépendance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques en fonction de ce que les laboratoires leur ont fourni ou ne leur fournissent.